Juliette Rangeval.
I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 31st.
Bonjour, et c'est encore une journée et une semaine cruciale pour le Brexit, le croyez-vous? Après un week-end annoncé comme historique et qui, on commence à avoir l'habitude, n'a pas fait avancer le Brexit d'un iota. Plus de 3 ans après le référendum qui a approuvé une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques vivent dans l'incertitude. Bonjour Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres.
Bonjour Juliette.
C'est peut-être pour ça que les médias britanniques continuent à ne poser qu'une question. Que va-t-il se passer? Comme si on pouvait lire l'avenir. Ils ont une boule de cristal, les médias.
Bah écoutez, ils ont été surpris tellement de fois par la tournure des événements qu'on se demande vraiment comment ils peuvent encore vouloir prédire l'avenir. Mais oui, ce matin encore sur Sky News, écoutez.
I think... Yeah, half of the country, perhaps more. I'm going to feel quite sure.
Do you think that's a likely outcome that if there was a referendum, we might actually end up remaining?
Again, not very good for television, but it's so hard to predict. I don't think.
Le journaliste interrompt une consoeur invitée en plateau pour une revue de presse et lui demande : alors, vous pensez que s'il y a un second référendum, rester dans l'Union européenne l'emporterait cette fois ? Réponse : c'est dur à prédire, mais bien sûr que c'est dur à dire. Le présentateur demande à la journaliste les résultats d'un scrutin dont on ne sait même pas s'il sera jamais organisé. Mais c'est vrai que la tendance est au journalisme prédictif dans tous les médias. On s'intéresse plus à combien de députés vont voter pour ou contre le deal qu'à ce qu'il y a dans le deal. Quand Boris Johnson faisait sa conférence de presse triomphale à Bruxelles jeudi dernier, les journalistes britanniques, les seuls dont le Premier ministre a pris des questions, ont tous demandé ce qu'il se passerait si son deal était rejeté, par exemple.
Marie, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les médias britanniques préfèrent lire dans les feuilles de thé plutôt que de parler du fond?
Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les Britanniques ont besoin d'être rassurés. Ce qui se passe dans leur pays est tellement stressant pour certains qu'ils veulent être réconfortés et avoir une idée d'où on va, c'est rassurant. C'est aussi plus facile de faire des plans sur la comète, obligatoirement assez simplistes, plutôt que d'aller au fond des choses. Un accord de 600 pages, c'est difficile à résumer, à expliquer. Tous les Britanniques ne sont pas intéressés par la même chose. Les chaînes généralistes comme Sky News ou la BBC ne peuvent donc pas tout expliquer à tout le monde, donc finalement, ne prendre que de très grandes lignes, c'est plus facile. À la décharge des médias britanniques, il faut dire que le contenu de l'accord n'est pas toujours ce qu'il y a de plus important pour les politiques eux-mêmes. On a l'impression que dans l'opposition de la gauche travailliste au Premier ministre de droite, il rentre une part de calcul politique. En somme, le fond de l'accord n'est pas obligatoirement ce qui déterminera le fait qu'il sera accepté ou non par le Parlement. À la charge des médias, en revanche, il y a certainement une course à la meilleure info, la plus fraîche, la plus fracassante pour faire le buzz. Et évidemment, rien dans le contenu du deal ne peut faire cet effet. Ça ne peut être que du qui va faire quoi ou qui a dit quoi.
Eh bien, parlons-en du fond, nous, Marie. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 600 pages d'accord?
Alors, préparez-vous à un cours magistral de 56 heures au moins sans pause ni entracte sur l'antenne d'RFI. Non, évidemment, le rôle des médias est de transmettre une information compilée, simplifiée mais pas simpliste, et on va tenter ça ici. Cet accord ne s'intéresse qu'au terme du divorce. Comment le Royaume-Uni et l'Union européenne se séparent-ils? Les relations futures font l'objet d'un texte annexe, la déclaration politique, mais c'est une déclaration d'intention qui n'engage à rien, car les négociations sur l'avenir ne peuvent commencer qu'après que le pays a quitté l'UE. Le texte de l'accord prévoit donc une période de transition allant jusqu'en décembre 2020 et renouvelable une fois pour 2 ans maximum. Pendant cette période, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, mais rien ne change dans les faits pour les sujets de Sa Majesté et pour les ressortissants européens. Pendant ce temps-là, les négociations commerciales continue. Mais déjà, on a une idée générale de ce qui va se passer, et c'est justement ce qui coince. Tout le Royaume-Uni doit sortir du marché commun. De fait, tout le pays sort aussi de l'union douanière. Mais en réalité, la province d'Irlande du Nord continuera à appliquer les normes européennes. Il s'agit d'éviter une frontière en dur sur l'île d'Irlande. Cela signifie donc que des douaniers britanniques en Irlande du Nord vont devoir appliquer les règlements européens pour les marchandises qui iront de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, au cas où elles passeraient la frontière et finissent donc en Europe. C'est ça que les unionistes d'Irlande du Nord refusent. Ils disent que cela crée une frontière en mer d'Irlande entre eux et la Grande-Bretagne et c'est inacceptable pour eux. Et puis côté européen, on a fait aussi une grande concession. L'Assemblée nord-irlandaise pourra donner tous les 4 ans son avis sur ce dispositif mis en place. Ce nouveau mécanisme remplace le fameux filet de sécurité, le backstop au nid du deal de Theresa May. Et puis un dernier point, autre chose qui n'est pas dans l'accord de Boris Johnson, mais qui était dans celui de la première ministre précédente, le level playing field, la garantie des Britanniques de ne pas faire du dumping social et environnemental, notamment. Ça c'est maintenant dans la déclaration politique, ce n'est plus qu'une éventualité, pas une certitude, et c'est ça qui fait enrager l'opposition travailliste.
Marie Billon à Londres pour Accent d'Europe. We're the boys of Belfast town, rant and roar and ramble and rout. We're Irishmen of high renown, that's the boys of Belfast. Le nouvel accord sur le Brexit fait trembler les unionistes nord-irlandais. En jeu, selon eux, la force des liens avec la Grande-Bretagne, pierre angulaire de leur identité. Et c'est un sujet sensible en Irlande du Nord, l'identité. Alors comment les nord-irlandais se considèrent-ils 20 ans après le début du processus de paix? Le reportage d'Emeline Vin.
20 ans après la fin officielle des troubles, des murs coupent encore la capitale nord-irlandaise, Belfast. Au nord, les quartiers protestants, au sud, les catholiques. Une dimension religieuse omniprésente pour Joe.
Je suis catholique, je suis irlandais. Ça a toujours été l'Irlande. Nous sommes sous domination britannique. Les autres, du côté protestant, ils ont été amenés par les Britanniques il y a 800 ans. Eux, ils sont britanniques. Moi aussi, je pourrais l'être si je voulais, mais je ne veux pas. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, je vais avoir des problèmes. Mais moi, je suis irlandais.
À 10 mètres de là, de l'autre côté du mur, autre quartier, autre atmosphère. James a toujours vécu à Belfast, côté protestant et britannique.
On est trop bien lotis avec le gouvernement britannique. Je ne voudrais rien avoir à faire avec la République, jamais. La plupart des catholiques, je les appellerai britanniques, quoi qu'ils en disent. Ils reçoivent des tonnes d'aides financières qu'ils n'auraient pas s'ils étaient restés avec les gens comme eux.
À la nuit tombée, les portails entre les quartiers ferment pour éviter les violences. Cette tension entre les deux communautés, c'est aussi une question de génération. À 23 ans, Amy ne s'est jamais posé la question en ces termes.
En toute honnêteté, je m'en fiche un peu. J'ai un passeport britannique et un passeport irlandais. Nos parents avaient les deux, alors nous aussi. Mais je suis d'Irlande du Nord, moi. J'ai d'abord eu le passeport britannique, puis l'irlandais quand j'avais 17 ans. Avec le Brexit, je me suis dit que ça serait plus simple pour voyager.
40% des Nord-Irlandais se considèrent britanniques, 25% seulement se disent irlandais. Être libre de choisir sa nationalité pour coller au mieux à son identité, c'est l'un des aspects fondamentaux de l'accord du Vendredi Saint.
Le processus de paix tente de faire en sorte que des gens avec différentes aspirations et allégeances nationales puissent partager le même espace géographique et politique.
Brian Gormally dirige le comité d'administration de la justice en Irlande du Nord qui garantit le respect des droits humains.
Oui, c'est une société très divisée. Au cœur de cela, il y a différentes identités, britanniques ou irlandaises. L'accord du Vendredi Saint permet d'exprimer ces identités en ayant l'une ou l'autre de ces nationalités ou les deux.
Cette disposition doit permettre aux Nord-Irlandais de ne pas être britanniques contre leur gré ou, à l'inverse, de ne pas être irlandais de force. Mais l'accord ne fait pas tout, c'est ce qu'a appris Emma de Souza. Elle est née à Derry, à l'ouest de l'Irlande du Nord, tout proche de la frontière.
Je suis une citoyenne irlandaise, née en Irlande du Nord, irlandaise par la loi, par la naissance et en vertu de l'accord du Vendredi Saint.
Emma a les cheveux auburn, les yeux gris-verts. Elle porte tous les jours autour du cou un médaillon avec la harpe irlandaise. En 2015, elle se marie à un Américain, Jake de Souza. Le couple demande une carte de résidence. Emma se déclare citoyenne européenne non britannique. La demande est rejetée. Pour l'administration, Emma est britannique puisqu'elle est née sur le territoire.
Ça a été une grosse surprise. Ce n'est pas comme si je m'étais réveillée un matin en décidant « Tiens, je vais être irlandaise ». Je n'ai jamais possédé de passeport britannique, jamais demandé la nationalité. Quand c'est arrivé, on a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur administrative. En fait, c'était carrément un vide législatif.
Depuis 2015, Emma de Souza a entamé une bataille judiciaire pour faire reconnaître son droit. Le dernier jugement, à la mi-octobre, stipule que l'accord du Vendredi Saint a une valeur législative inférieure à la loi de 1981 sur la citoyenneté britannique. Et donc, que toute personne née en Irlande du Nord est de facto britannique jusqu'à ce qu'il ou elle renonce à cette citoyenneté.
Il faut se rappeler qu'en Irlande du Nord, l'identité est quelque chose de très complexe et que ça a été au cœur de décennies de violence. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec l'identité britannique. Je ne peux pas adopter une identité que je n'ai pas. C'est vraiment dur à expliquer de manière adéquate une identité.
Emma et Jake de Souza ont l'intention de faire appel.
Pour nous, il n'y a pas le choix. La décision crée un dangereux précédent. Elle réécrit une disposition clé de l'accord du Vendredi Saint. Si on laisse faire, ce sera quoi après ?
Ils ont obtenu le soutien de Brian Gormally, le défenseur des droits humains.
Dire « Oh, je suis britannique de toutes les façons », ça revient à admettre que l'Irlande du Nord fait et fera toujours partie du Royaume-Uni et que l'unification de l'Irlande est une sorte de chimère. Ça mine la confiance du peuple envers la mise en œuvre de l'accord de paix et quand les gens perdent confiance, le risque de violence surgit.
De nombreux Irlandais, du Nord comme du Sud, soutiennent aussi Emma de Souza. Le gouvernement de Dublin l'a même assuré de son appui.
Opacité, manque d'informations. Après un mystérieux accident nucléaire à Nyonoksa en Russie l'été dernier qui a fait au moins 5 morts, Moscou a multiplié les déclarations contradictoires, les propos flous sur l'ampleur de l'explosion et sur le type d'armement testé qu'il a provoqué. À Moscou, Léo Vidal-Giraud.
22 secondes en tout et pour tout. Le soir du 8 août, le journal de la télévision publique russe fait dans la brièveté pour couvrir l'accident nucléaire de Nyonoksa. Une explosion a eu lieu sur une base militaire. Les victimes ont été hospitalisées. Il n'y a pas d'émissions toxiques. Le niveau de radiation est normal. Le message est simple. Circulez, il n'y a rien à voir. Mais l'histoire va rapidement prendre une toute autre ampleur. La rumeur enfle dans la population, bientôt relayée par les réseaux sociaux. Il serait question d'une contamination radioactive. En cause, l'explosion d'un missile expérimental à propulsion nucléaire. Pour en savoir plus, il faut se rendre à l'observatoire franco-russe, à la rencontre d'Igor Delanoé, son directeur adjoint, spécialiste des questions d'armement. Nous sommes au cœur du quartier français de Moscou, juste en face du lycée français. Sous ses fenêtres, les enfants jouent dans la cour de récréation.
Manifestement, un tir d'un missile aurait échoué lors d'une phase de test. Et suite à cet échec, il aurait été constaté sur la zone de l'incident un taux de radioactivité nettement plus élevé que la normale. Le type de missile n'a pas été ni confirmé, ni infirmé de sources officielles. Cette absence de version officielle, elle traduit, à mon avis, un embarras des autorités quant à la nature du missile qui a été testé. D'autre part, la communication du ministère de la Défense sur cet incident est restée extrêmement laconique.
Parallèlement aux informations officielles, ou plutôt à leur absence, les alertes se multiplient. Des médias indépendants, des médecins dénoncent des cas d'irradiation. Une semaine après l'événement, la branche russe de Greenpeace révèle que des particules radioactives sont bel et bien présentes dans l'air, au-dessus des grandes villes de la région. Peu à peu mises face à leurs contradictions, les autorités russes sont forcées de reconnaître la présence de radiation, sans pour autant faire la transparence sur les circonstances ni sur les conséquences de l'accident. Aujourd'hui à Moscou, Vladimir Tchouprov, directeur du programme énergétique de Greenpeace, nous accueille dans son bureau, dans l'un des imposants immeubles staliniens qui bordent l'avenue de Leningrad.
C'était comme à Tchernobyl en 1986, exactement les mêmes mots. La situation est sous contrôle, le niveau de radiation est normal. Mais c'était un mensonge. Le niveau n'était pas normal, au moins dans cette région. Ensuite, ils ont caché qu'il y avait eu une réaction en chaîne. C'était très important de savoir si l'accident avait impliqué du combustible nucléaire ou non, car les isotopes à faible durée de vie sont aérosols. Ils se retrouvent dans les poumons des gens. C'est très dangereux. Sur ce risque d'irradiation interne, ils n'ont rien dit du tout et ils ne disent toujours rien. C'est encore un mensonge.
Pour Vladimir Tchouprov, il n'y a aucun doute. Bien plus que l'accident lui-même, dans cette histoire, c'est la culture du mensonge qui a provoqué le plus de dégâts.
Je pense que c'est un instinct. Moins je dis la vérité, moins de personnes seront au courant et moins il y aura de problèmes. Mais le gouvernement russe n'a pas retenu la leçon. Si tu ne donnes pas d'informations, elles finissent quand même par fuiter. Et si tu n'as pas une explication claire, de première main, cela crée des rumeurs. Il y a un proverbe russe qui dit « les avares paient deux fois ». Ici, c'est très vrai. Le prix de leur mensonge est doublé. L'État doit alors lutter à la fois contre la panique et contre les rumeurs qui provoquent une panique encore plus grande. C'est idiot, car il est probable que les conséquences directes de l'explosion soient mineures. Elles existent, mais elles sont absolument incomparables avec Tchernobyl. Ici, c'est un petit incident, un incident local. Mais les pertes en matière d'image sont les mêmes. À Tchernobyl comme ici, les gens ont encore vu que l'on ne peut pas faire confiance à ces autorités. Elles mentent, elles dissimulent, et la prochaine fois qu'il y aura un accident de ce genre, elles feront la même chose.
L'inquiétude, la suspicion gagnent toute la société russe. L'écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana Alexeïevitch, sur la radio Écho de Moscou, estime ainsi « Il semblerait que nous n'ayons pas appris les leçons de Tchernobyl et de Fukushima ». D'autant que les incidents nucléaires sont monnaie courante en Russie. En 2017, par exemple, un mystérieux nuage radioactif avait été identifié dans le ciel européen, du ruthénium, qui provenait de l'usine de retraitement de combustible nucléaire de Mayak, dans l'Oural. Le gouvernement russe avait alors nié toute responsabilité.
L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Russie en avril 1986 reste la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité. La culture du secret, la désinformation font que plus de 30 ans après, bien des questions demeurent. Illustration en Allemagne, touchée comme beaucoup de pays à l'époque par les retombées radioactives. Mais en 1986, l'Allemagne est encore divisée par le rideau de fer. Nous avons donc deux pays, deux gouvernements et deux réaction très différente à la catastrophe, Déborah Berlioz.
Ce n'est que le 28 avril, deux jours après la catastrophe, que les autorités soviétiques signalent l'accident de Tchernobyl. Au début, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest se veut rassurant. Le ministre de l'Intérieur déclare même à la télévision que tout danger pour la population allemande est écarté. Cependant, dans les jours suivants, des niveaux alarmants de radioactivité sont mesurés. Contrairement à la France, les autorités ouest-allemandes publient ces données et prennent des mesures. La ville de Hambourg préconise ainsi à ses habitants de ne pas sortir quand il pleut, tandis que d'autres régions déconseillent carrément aux enfants de jouer dehors. Le lait et les légumes frais sont proscrits et tous les voyages scolaires vers l'Allemagne de l'Est sont annulés. Alors que la panique gagne peu à peu l'Allemagne de l'Ouest, la RDA reste calme. Le message du gouvernement communiste est clair, il n'y a aucun danger pour la santé de la population. Pendant ce temps, les étals des magasins de l'Est croulent sous les fruits et légumes. Si cette abondance commence par surprendre, les citoyens de RDA comprennent vite ce qu'il se passe. Ils sont nombreux à écouter la radio de l'Ouest. Ils apprennent ainsi que l'Allemagne de l'Ouest a interdit l'importation de ses produits. Si certains se contentent de renoncer au lait et légumes frais, d'autres sont indignés par la campagne de désinformation et rejoignent des groupes écologistes, contestataires du régime communiste. À l'Ouest aussi, les antinucléaires ont le vent en poupe. Suite à l'accident de Tchernobyl, la part des opposants à l'énergie atomique passe de 13 à 27% dans les sondages. Et quelques semaines après la catastrophe, le ministre fédéral de l'Environnement est créé. Il faudra cependant attendre un autre accident, celui de Fukushima en 2011, pour que l'Allemagne abandonne définitivement l'énergie atomique. Human activity has had a more direct effect on global warming than previously thought.
Accent d'Europe vous emmène à la plage en Toscane, sur une plage très célèbre, une plage de rêve, mais qui pose beaucoup de questions par sa proximité avec une usine chimique. Alors, paradis ou cauchemar environnemental, les explications de Franceline Beretti.
Une eau turquoise, un sable fin, blanc, éblouissant, les plages de Rosignano, au sud de Pise, offrent un décor de paradis. Les touristes apprécient à coups de selfie. L'association Touring classe même ses 4 km de sable dans les 10 plus belles plages de Toscane. Pourtant, ces couleurs sont liées à des rejets industriels. L'usine Solvay fabrique des produits chimiques, surtout du bicarbonate de soude, celui qui sert peut-être au nettoyage chez vous. Elle utilise du calcaire et le rejette ensuite dans la mer. Le calcaire est blanc et donne à ce bout de Toscane un air de Caraïbes. Tout ça est inoffensif, assure le grand groupe chimique. D'après Solvay, oui. D'après la municipalité, oui. Selon elle, les contrôles sanitaires sont comparables au reste du littoral. Mais tout le monde n'a pas le même avis. Le programme des Nations Unies pour l'environnement classe Rosignano parmi les 15 sites les plus pollués en Méditerranée. Il faut dire que le sujet est délicat. C'est un site majeur pour la région, il emploie 1500 salariés et le tourisme balnéaire est une manne importante. Si pour certains, ces plages de rêve sont un cauchemar environnemental, personne n'a intérêt à analyser leur sable en détail.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.